Ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Il y a des dates qu'on apprend à l'école, qu'on récite par cœur comme un passage obligé. 1945, fin de la guerre, libération des camps, et puis on range ça dans un coin. Un tiroir à mémoire collective bien propre, bien fermé, entre la géographie et les mathématiques. Mais parfois une voix vous décroche ce tiroir, une voix qui tremble ou qui tient debout depuis l'enfance. Une voix comme celle de Lily Léniel par exemple, elle est revenue seule de Ravensbrück. Elle avait 11 ans et elle est toujours là, et c'est une voix qui raconte encore. Alors on se dit que peut-être le mot mémoire n'est pas qu'un devoir, pas qu'un monument figé sous la pluie, c'est un fil tendu entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas encore, ceux qui pourraient oublier. Un fil comptant aussi depuis la Mayenne, à la vigie, un nom comme un poste d'observation, une promesse de vigilance pour l'avenir, une promesse de regard vivant, toujours humain. Pour en parler, pour faire vibrer ce fil, on reçoit aujourd'hui Aurélien Norgeot, responsable de la Vigie Mémoriale des Déportés de la Mayenne, puisque 2025 marque les 80 ans de la libération des camps, et pour cela, différents rendez-vous vous sont proposés. Et puis comme chaque mois, on retrouve Nicolas Moreau de Mayenne Culture, il a l'oreille affûtée, le cœur local et une passion un peu contagieuse pour la scène musicale mayennaise. Aujourd'hui c'est rock'n'roll, guitare en bandoulière et énergie brute, et franchement c'est pas mal pour commencer la semaine. Et puisqu'on parlait d'énergie, autant vous dire qu'il y en a dans le studio ce matin. Toute une petite troupe a rejoint l'émission en ce début de semaine. Trois stagiaires, rien que ça. Mais attention, pas n'importe quel stagiaire. Il y a une voix familière qui fait son grand retour parmi nous. Adèle, qu'on ne présente plus, revient à nos côtés comme on revient un peu chez soi, j'ai envie de dire. Et ce matin, c'est la toute première journée également pour Titouan et Yann. Alors, je vous dis bonjour à tous les trois. Est-ce que vous allez bien?
Oui, ça va, merci.
Ça va bien, merci.
Ça va, Margot, ça va bien.
Et bien sûr, alors j'oublie pas, les fidèles au poste chaque jour en service civique, fidèle au poste, comme je disais. Bonjour Maxime, toujours prêt, toujours souriant, c'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Comment est-ce que tu vas?
Bonjour à tous, super, et toi Margot?
Et bien ça va très très bien, je te remercie. Et puis bienvenue à vous qui nous écoutez, fidèles aussi ou curieux de passage, auditeurs de l'autre radio. Je suis Margot, je suis ravie de commencer cette semaine avec vous. On s'installe, on ouvre grand les oreilles, c'est parti pour l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. À l'occasion des 80 ans de la libération des camps, la Vigie Mémoriale des Déportés de la Mayenne propose tout au long de l'année une série de rendez-vous pour transmettre la mémoire de la déportation et questionner notre rapport à l'histoire. Alors témoignages, conférences, rencontres sont au programme. Aujourd'hui, on en parle justement avec Aurélien Norgeot. Vous êtes responsable de la Vigie. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci à vous de nous avoir invités.
Alors avant de présenter les rendez-vous à venir, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est la Vigie et pourquoi ce lieu a été créé en Mayenne?
Alors la Vigie Mémoire des Déportés de la Mayenne est un lieu qui a ouvert ses portes en 2012 à l'initiative d'une association d'anciens déportés et de descendants de déportés. La présidente, c'est Jocelyne Doumeau, qui est fille de déportés. Ce projet a pour but de rendre hommage aux déportés du département, donc déportés résistants, déportés juifs, pour une majorité. Et cela à travers l'exposition d'objets que certains déportés ont pu rapporter des camps, et surtout également à travers les témoignages des déportés. L'association avait donné pour mission première d'aller enregistrer le témoignage, et c'est quelque chose qui est très précieux et qu'on souhaite mettre en avant pour continuer à transmettre leur mémoire et leur parcours.
Alors nous sommes en 2025, 80 ans après la fin de la guerre. Tout au long de l'année, votre association, je disais, propose une programmation intitulée 1945, il y a 80 ans. Pourquoi ce devoir de mémoire reste-t-il toujours aussi essentiel aujourd'hui?
Parce que bah, du coup, ça, 80 ans, ça commence, c'est assez proche, mais assez lointain également. Donc il y a toujours l'idée de se remémorer ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Les déportés avaient ce message au retour des camps du « plus jamais ça », plus jamais d'être discriminé pour telle ou telle raison, d'être déporté pour telle ou telle raison. Et donc c'est cette mission aussi qu'a le mémorial de transmettre ce message de « plus jamais ça ». Et donc là, rappeler les faits de ce qui s'est passé il y a 80 ans, c'est essentiel aujourd'hui. On le voit encore avec le contexte actuel, hein. Il y a encore des choses qui sont parallèles et qui font sens, qui font écho à ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important de transmettre ce message aux jeunes générations. On accueille beaucoup de scolaires dans le mémorial, donc c'est vraiment important de continuer à transmettre cette mémoire et ce message.
Alors je vous propose de parler de la venue exceptionnelle de Lily Léniel. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur qui est-elle et pourquoi est-ce si précieux de pouvoir l'écouter aujourd'hui ?
Alors Lily fait partie des derniers témoins qui a vécu donc la période de la Shoah. Elle a été donc arrêtée en 1943 avec sa famille parce que juive et donc déportée dans différents camps en Allemagne. Elle a survécu donc à cette déportation avec ses deux petits frères et sa maman. Et donc Lily fait partie des derniers témoins qui voyage dans toute la France pour raconter son histoire, pour ne pas oublier ce qui s'est passé contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi rendre hommage à toutes les personnes qui ne sont pas revenues des camps. Et donc Lily, c'est cette mission de transmission de la mémoire. Et donc elle va dans les collèges et lycées de toute la France. Et donc Lily vient la semaine prochaine, donc le lundi 12 et 13 mai en Mayenne, pour raconter son histoire aux jeunes Mayennais et aussi au grand public du département.
D'ailleurs, ces mémoires sont intitulées « Et nous sommes revenus seuls » qui ont été publiées donc en 2021. Lily Léniel a été déportée à Ravensbrück puis à Bergen-Belsen. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots sur ce que furent ces deux camps ?
Alors Ravensbrück et Bergen-Belsen sont deux camps de concentration, donc qui sont situés en Allemagne. Donc c'est dans ces camps-là notamment qu'on envoyait les déportés résistants. Ravensbrück était le camp des femmes. C'est là que la majorité des déportés résistantes ont été envoyées. Le parcours de Lily's famille est un peu particulier puisque la famille de Lily était originaire de Hongrie et à ce titre, la Hongrie étant un pays allié de l'Allemagne, les déportés juifs n'ont pas été envoyés directement vers les camps d'extermination comme celui d'Auschwitz-Birkenau, mais plutôt envoyés dans les camps de concentration, donc de Ravensbrück. C'est ce qui a permis justement de sauver Lily, puisque lorsqu'elle a été déportée, elle avait 11 ans. Et si elle avait été directement au camp d'Auschwitz, elle serait sûrement morte dans les camps. Donc Ravensbrück et Bergen-Belsen sont vraiment des camps de concentration, dont le but n'était pas de tuer les déportés, mais de les concentrer, de les faire travailler.
Vous nous l'avez dit, donc des rencontres sont prévues le 12 et le 13 mai. La rencontre publique, c'est le 13 mai à l'Huisserie. À qui est-ce que s'adresse cette rencontre ? Quel est le format ? Et puis comment est-ce qu'on peut y assister ?
Alors, la rencontre est accessible à tout le monde. Lily, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Elle a vraiment ce message à transmettre à toutes les personnes qui souhaitent entendre son témoignage. Et donc, la conférence est accessible via inscription sur Hello Asso. Donc il y a un lien qui est disponible sur notre site internet. Et donc la conférence a lieu à l'Huisserie le 13 mai à l'espace du Maine.
Le 25 juin, vous proposez une conférence consacrée au rapatriement des déportés, en particulier à travers le rôle de l'hôtel Lutetia. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Alors l'hôtel Lutetia, c'est l'un des plus grands centres de rapatriement des déportés. À partir d'avril 1945, les déportés sont libérés des camps et les premiers déportés vont être rapatriés en France. Et donc l'hôtel Lutetia, qui a été en fait un lieu d'administration de l'armée allemande de l'ordre de l'occupation, va être réquisitionné pour servir de centre de rapatriement et donc donner les premiers soins aux déportés qui reviennent depuis les différentes gares ou aéroports de la région parisienne. Donc c'est là qu'on va les accueillir et qu'on va pouvoir reprendre leur formation, savoir s'ils ont des familles dans lesquelles ils peuvent être hébergés par la suite. Donc c'est vraiment le premier lieu de retour des déportés en France.
Et alors, peut-être qu'on peut préciser pourquoi c'est important d'aborder ce moment du retour. Vous allez me dire si je me trompe, mais souvent j'ai l'impression moins évoqué que la déportation elle-même. Et pourtant, ça reste une étape extrêmement importante où il s'est passé aussi énormément de choses et où on a constaté aussi énormément de choses.
Oui, c'est vrai que c'est une période, on va dire, un peu moins connue que la déportation en elle-même. Le fait que le passage à l'hôtel Lutetia peut être plus ou moins court selon le parcours des déportés, peut expliquer que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été mis en avant et étudié de manière précise, notamment par les historiens. Les témoignages qu'on a aussi, nous, au mémorial des déportés mahiennais, qui expliquent leur passage au Tessia, n'est pas forcément un moment qu'ils ont retenu, puisque c'était un dur retour aussi à la réalité. Et parfois, ils sont revenus seuls, donc un peu désorientés. Donc cette période du rapatriement à l'hôtel Tessia, c'est quelque chose de mal vécu, de manière générale, par les déportés. Donc ce qui peut expliquer que cette période a été moins bien connue, moins bien traitée par notamment les témoignages des déportés.
Et donc cette conférence aura lieu à la Vigie le 25 juin à 14h30, pardon, on peut le noter dans nos agendas. La Vigie, vous l'avez dit, hein, vous avez dit quelques mots, mène aussi donc un travail important avec les établissements scolaires. Comment est-ce que vous travaillez justement avec les jeunes générations pour qui 80 ans, ça peut sembler peut-être loin sur toutes ces questions-là? Comment est-ce qu'on sensibilise des jeunes à cette période de l'histoire?
Alors, ce qui est intéressant aussi à venir, lorsque les groupes scolaires viennent au mémorial, c'est que ils s'aperçoivent des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur leur territoire. Dès qu'ils s'aperçoivent que dans telle ou telle commune du département, il y a eu des arrestations de personnes qui ont été ensuite déportées, tout de suite, ça accroche leur intérêt au sujet. Et là, on peut vraiment entrer dans le sujet et expliquer ce qu'était la déportation, la Seconde Guerre mondiale, de manière plus précise. Donc cette accroche locale, cette histoire locale qui permet de capter l'intention des élèves. Et donc par le différents supports que l'on a pu développer au cours des années, on peut évoquer la déportation, donc soit à partir d'une commune, soit de manière générale. Les objets permettent aussi de rendre concret ce qu'était la déportation. Et puis différents ateliers pédagogiques qu'on peut aussi amener à créer en partenariat avec les enseignants également.
Depuis 2023, le mémorial a pris le nom de la Vigie, a changé de nom.
Oui, depuis 2023.
2023, c'est ça.
Donc, la Vigie, c'était l'idée de mettre aussi en avant ce message de vigilance par rapport au plus jamais ça. C'était l'idée de montrer qu'on sensibilise aussi le public, le jeune public, à toutes les formes de discrimination contre lesquelles on doit lutter.
Et donc, on peut rappeler justement à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute qu'en dehors de ces événements, de ces dates qu'on a annoncées ensemble, le public peut venir découvrir ou redécouvrir le travail de la Vigie. Il y a des ressources en ligne, des expositions permanentes et des visites évidemment de programmées au mémorial lui-même à Mayenne.
Tout à fait. Donc, le mémorial se visite toute l'année. Hein. On est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Et les premiers dimanches de chaque mois également, en haute saison, donc entre avril et septembre.
Pour terminer, si vous deviez résumer en une phrase l'intention derrière cette programmation pour cette année 2024, quel serait le message que vous aimeriez adresser à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Donc cette année, c'est vraiment une année importante pour nous, puisque ça va être, je pense, une dernière année anniversaire pendant laquelle on pourrait avoir des témoignages directs de déportés. Hein. La plupart maintenant sont quasiment centenaires, donc c'est vraiment ces dernières années qu'on va pouvoir encore entendre leur voix, leurs témoignages. Donc c'est vraiment important, notamment par rapport à ce qu'on évoquait avec Lily, d'assister à ces témoignages. Et puis 80 ans, c'est loin, mais aussi proche, donc toujours rappeler ce qui s'est passé pour ne plus vraiment reproduire ce qui s'est passé il y a 80 ans.
La Vigie Mémorial, comme d'autres structures associatives, a subi des coupes budgétaires de la part de la région Pays de la Loire. Alors comment est-ce que cela se ressent aujourd'hui dans votre structure, peut-être même dans votre programmation?
Alors bien sûr, on a dû réadapter notre organisation, puisque notamment nous avons dû passer de 3 à 2 salariés. Nous avons également donc revu aussi notre programmation qui avait été initialement prévue. La prochaine programmation sera aussi sûrement moins conséquente que les précédentes programmations. Donc oui, les coupes budgétaires notamment de la région ont eu des conséquences directes sur l'activité du mémorial.
En tout cas, merci beaucoup Aurélien. Donc, je rappelle les différents rendez-vous. Le 13 mai à l'Huisserie, une rencontre est organisée avec Lily Léniel, rescapée de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. C'est à 19h à l'espace du Maine. Le 25 juin à 14h30 à la Vigie, une conférence sur le rapatriement des déportés au Lutetia. Et alors le 18 mai, on ne l'a pas mentionné, mais à 10h, il y a un rallye mémorial autour de la Seconde Guerre mondiale à Loiron.
Oui. Alors justement, ça fait partie des supports, des formats que l'on met en place avec des élèves. Donc là, c'est tout un travail qui a été mené sur deux années avec l'école publique de Loiron, donc l'école Jean Moulin de Loiron, donc qui a travaillé sur donc la Seconde Guerre mondiale dans la commune, donc à partir notamment du monument aux morts de la commune sur lequel apparaît différents noms de personnes mortes lors du conflit. Et donc le travail de la vigie, c'était d'amener des sources, de faire travailler les élèves sur des archives qui ont permis donc d'écrire les biographies de ces personnes-là qui vont servir lors du rallye. Donc le rallye, ouais, c'est vraiment un format qui permet aussi d'avoir accès à cette histoire, mais de manière ludique pour un public familial.
Très bien. Eh bien, merci. Merci Aurélien. L'ensemble de la programmation est disponible sur le site de la Vigie, Mémorial des déportés de la Mayenne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
L'agité du local sur l'autre radio.
Dans quelques instants, on écoute Titouan et Yann pour la revue de presse du Haut-Anjou. Mais avant ça, on fait une pause musicale. Il semblerait, Adèle, que tu nous ramènes un drôle d'oiseau.
Un drôle d'oiseau. Mais attends, Margot, mais tu connais pas Théodora. Mais ça cartonne sur le TikTok des Jeunes en ce moment. Et oui, je suis trop chébran, comme on dit chez les Jeunes. Et on en reparle jeudi dans ma nouvelle chronique. Et en attendant, je te fais écouter Kangoli sous BBL. Ou BBL, je ne sais pas comment ça se prononce. Tu m'en diras des nouvelles.
J'ai volé ton trop sexy. J'ai volé ton
baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. Ça cause mon fiacre qui éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. Ça cause mon fiacre qui éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolis, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline. Je l'ai tué puissance suite, telle une réaction. Ils m'ont pris mon 10, j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky mal poli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre n'est jamais ramolli.
Trop sexy, j'ai volé ton bouc. Trop sexy, j'ai volé ton
bouc. Lady Congolis, baby aimerait sa pire. Sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolis, baby, aimerait sa pille. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolis, baby, aimerait sa pille. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la belle.
Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue de presse du Haut-Anjou. Si vous avez prévu de vous marier prochainement, alors vous célébrerez peut-être votre banquet au château de Beauchêne à Cran. Acquis en mars 2021 par Derek et Nathalie de Villenfagne, ce couple prévoit de le rénover et de l'aménager pour accueillir de futurs mariages dans l'orangerie du château. Datant de la fin du XVIIIe siècle, il était à vendre depuis 3 ans, une aubaine pour ce couple amoureux des vieilles pierres. Malgré sa dégradation au fil du temps, la bâtisse a su garder son authenticité avec ses vues apaisantes sur la campagne et ses 370 hectares au total. le couple franco-belge a pour projet de créer un pavillon d'acier et de verre de 15 mètres carrés par 15 mètres par 25 mètres qui servira de salle de réception lors des mariages. Si le permis de construire est validé, cet espace devrait être prêt pour la saison 2026. Cette activité permettra de continuer à rénover le château de Beauchesne. Les maîtres des lieux précisent qu'avec ce projet, tout sera réversible pour ne pas laisser d'empreintes après eux si besoin.
Et pour continuer, une triste nouvelle pour les habitants de Segré. Après 35 ans d'existence, Tony Joly, accompagné de sa femme Pascale, ont fermé les portes de l'Amicaline. L'enseigne sera remplacée par une boulangerie artisanale qui rouvrira ses portes dans une semaine. Le commerce était devenu un point de repère. Pour les Segréens, appelant même le carrefour le feu de l'Amicaline.
Un moment très triste et émouvant pour le franchisé qui trouvera son avenir en Vendée prochainement. Pour cet ancien pâtre du bâtiment, c'était la diversité des tâches qui lui plaisait. Et ensuite, je le cite, « Lorsque je fais l'ouverture à 3 heures, je suis en cuisson, puis il y a la vente, la fabrication de sandwichs. Avec sa femme, il travaillait 7 jours sur 7, cumulant 70 heures de travail par semaine, ce qui n'attire plus grand monde avec un tel volume horaire. »
Et nous terminerons cette revue de presse par une bonne nouvelle. En effet, c'est à Gréhambouère, dans le sud de Mayenne, que la structure du futur restaurant continue de prendre forme, près du parc des Lilas. C'était en 2022 que le maire de la commune, Jean-Pierre Fouché, a annoncé ce projet de construction. Bien plus tard, en septembre 2024, le chantier du futur restaurant est lancé. Quelques mois après, les habitants continuent à être satisfaits des avancées des travaux. Cependant, peut-être qu'il pourrait y avoir une inquiétude où il manquerait pour l'instant un preneur pour le nouveau local d'ici novembre 2025. Une annonce a alors été publiée sur Le Bon Coin le 15 avril dernier. En description, je cite « Bâtiment de 300 m² avec une terrasse de 60 m² et de nombreuses places de parking ». On espère alors qu'un nouveau restaurateur sera intéressé pour la reprise et que ce dernier trouvera sa place pour les 1000 grisillons. Merci d'avoir suivi cette revue de presse du Haut-Anjou. Pour en savoir plus, l'hebdomadaire est disponible en kiosque tous les vendredis et en version numérique sur haut-anjou.fr. Passez une très bonne journée.
L'agité du local sur l'autre radio. Aujourd'hui, comme chaque second lundi du mois, nous accueillons Nicolas de Transistor et Mayenne Culture pour une nouvelle chronique musicale où tu nous diras, Nicolas, que le rock lavallois n'est pas mort.
Bonjour, oui, je prends mon accent anglais le moins pourri pour vous le dire. Laval is still rocking. Certains de nos auditeurs le savent peut-être. En 2010, une expo et un livre intitulé « Rocking Laval » retraçaient les riches heures du rock à Laval entre 1960 et 2000, des renversants shooters aux magnifiques Blue Valentines. Eh bien, 15 ans après, le cœur du rock'n'roll made in Laval bat toujours pas mal. Témoin le plus récent de cette belle vitalité, le power trio Genuine Leather déboule ces jours-ci avec un premier EP qui envoie du petit bois. Attention, gros son. Puissant riff de gratte débité à la tronçonneuse, ambiance poisseuse et bluesy à souhait, chaleur incandescente des amplis à lampe. Comme son nom le revendique, Genuine Leather joue du rock, du vrai, authentique et sincère, son tic et pas de toc pour un sou. Le trio rejoue cet éternel retour qu'initieront le punk et le garage rock, désireux de renouer avec l'énergie primale et irrésistible des pionniers du rock'n'roll originel. Biberonnés aux meilleures galettes de Led Zeppelin et d'AC/DC ou des Stones, nos trois vingtenaires ont digéré leurs multiples influences pour mitonner à leur sauce un rock brut, brûlant et urgent, fonçant droit au but. Ultra référencé mais bien dans son époque, Genuine Leather n'a pas grand chose à envier à Last Train, Kokomo et autres fers de lance de la scène heavy rock hexagonale en plein boom, la preuve avec ce titre, Healing, dont l'excellent clip sortait le 30 avril dernier.
You said that you wanna travel the world. again.
Genuine Lizor, alias Alex à la batterie, Théo à la basse, impeccable et implacable tandem rythmique qui propulse la guitare à la fois cradingue et virtuose, aussi abrasive que précise de Louis, guitariste et vocaliste du groupe, capable de passer d'un chant saturé et rugueux comme du gravier à une voix de falsetto séraphique. On attend donc avec impatience la sortie en juin de leur premier EP, enregistré et produit d'une main de maître au studio The Apiary, à Laval par l'ultra talentueux Amaury Sauvé.
Un premier disque qu'ils présenteront pour la première fois sur scène dans la prochaine émission Transistor Live que tu animeras, Nicolas, le 23 mai prochain au Carré à Château-Gontier.
Oui, et on a hâte d'y être car c'est sur scène que la musique de Genuine Lizor prend toute sa saveur, d'autant que ce live, comme leur EP, les trois musiciens l'ont préparé d'arrache-pied avec Tess, alias David Tessier. Figure majeure du Rocking Laval que j'évoquais tout à l'heure, ce batteur qui a joué avec la crème du rock lavallois dans les années 80-90 s'est transformé à la fin des 90s en tonton rocker pédagogue. Prof de rock'n'roll avec des guillemets au conservatoire de Laval Aglo, il transmet depuis près de 3 décennies le béaba du rock à toutes celles et ceux que la guitare démange. La scène musicale locale lui doit beaucoup, c'est bien simple, tout le rock d'ici, d'hier et d'aujourd'hui est passé par lui. De Club Mutant à Amaury Sauvé, dont je parlais à l'instant, des frangins d'Archimède aux métalleux de Discord, en passant par les punk rockers à roulettes de Midsummer Lane, qui viennent d'ailleurs de sortir un excellent premier EP, les musiciens de Bird in Row, qui depuis près de 10 ans sillonnent les scènes de la planète, ont aussi fait leur gamme avec David Tess Tessier. En attendant un prochain album, le trio se lance aujourd'hui dans un nouveau projet, où leur post-hardcore hautement émotionnel fusionne avec la techno-industrielle des musiciens parisiens Maelstrom et Louisa. Le fruit de cette fusion s'appelle Pain Magazine. Comme on l'imagine bien avec un nom pareil, leur musique ne donne pas vraiment dans la franche rigolade. Au chant déchiré de Louisa répondent les beats agressifs et fissurés de Maelstrom que vient sublimer le lyrisme des guitares de Bird in Row comme une supplique désespérée pour conjurer l'accablante violence du temps présent.
Thank you.
Violent God, premier single du groupe Pain Magazine, qui annonce un premier EP très attendu et une tournée à l'automne qui les verra traverser la France d'Aix-en-Provence au Havre, en passant bien sûr par Laval, où ils joueront au 6x4 le 6 novembre.
On note la date sur notre agenda et en attendant, Nicolas, rendez-vous donc le 23 mai pour la prochaine émission Transistor Live au Carré à Château-Gontier.
Oui, on y retrouvera donc sur scène et en interview donc les rockers de Genuine Leather, donc, mais aussi les chansons du duo Bretelle et Garance, nettement plus douces, et la techno-tonique du triblion Michel Hubert. Une soirée ultra éclectique, comme d'habitude, pour découvrir en une heure et demie trois artistes qui font l'actualité musicale du 5-3, le tout gratuitement, évidemment, ma chère Margot.
Merci Nicolas, à très bientôt. L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aurélien Norgeot, responsable de la Vigie Mémoriale des Déportés de la Mayenne, d'avoir été à notre micro. Merci aussi à Nicolas Moreau de Mayenne Culture et bien sûr merci à vous qui nous écoutez. On est très nombreux autour de cette émission pour les semaines à venir. Maxime est toujours là et trois stagiaires, je vous le disais, viennent de nous rejoindre. Donc Adèle, que vous connaissez bien, et il y a également Titouan et Yann. Alors attendez-vous à ce que ça fourmille, ça cogite, ça bidouille et ça s'agite. Et c'est tant mieux. Donc merci à vous trois d'avoir été avec moi aujourd'hui. D'ailleurs, Adèle, tu as regardé la programmation du jour sur nos ondes. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Adèle ? Et Adèle, c'est quoi les émissions de ce soir ?
Oui, alors, à 19h, on explore des musiques sorties des confins de la galaxie avec Solenoid. Et puis, à 20h, vous pourrez découvrir la discothèque du programmateur. Et bien, je me demande quel titre nous allons découvrir aujourd'hui, Margot.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Et d'ici là, que votre semaine démarre sans trop de secousses, tranquille. C'est déjà pas mal, vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, bah, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.